Et c'est Samy que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Samy.
Bonsoir Sabine, quel bonheur de vous avoir.
Alors, on se connaît Samy, hein?
Oui. On s'était parlé, il me semble, trois fois. La dernière, c'était en mois de janvier, le 27, concernant une situation qui dure depuis une année pratiquement, hein. Nous sommes presque à l'anniversaire, suite au fait à un problème que mon épouse a eu pendant le premier confinement, donc un accès bipolaire. Et elle est partie de la maison l'été. Bon, après, elle a été hospitalisée. Je l'ai sortie de l'hôpital psychiatrique avec un traitement qu'elle n'a pas suivi, un psychiatre qu'elle ne voit toujours pas. Et il y a eu plein d'événements. Le dernier en date, c'est qu'elle me reparle de divorce juste après la Saint-Valentin que nous avons fêté royalement. Donc le 14 février. Trois jours après, elle me sort la carte que voilà, elle a relancé le divorce auprès de son avocat et j'ai rien compris. Donc toujours dans le chaud et le froid depuis un an qu'elle me sort ça et au bout d'un moment, donc j'ai accepté cette situation. Donc c'est très dur parce qu'on vit toujours dans le même appartement et elle s'est confinée avec les enfants dans la chambre des enfants. Sachant qu'elle dormait déjà avec eux depuis le mois de septembre, sa sortie de l'hôpital.
Il y en a quatre des enfants, hein, si je me souviens
deux.
Bien. Deux, pardon, je croyais qu'il y en avait
oui.
Quatre.
Deux, un de 5 et un de 9 ans. Sachant qu'elle dormait déjà avec eux, et elle a toujours beaucoup dormi avec eux, parce qu'elle les a eus très tard, donc elle a une relation très, très, très affective avec eux.
Très fusionnelle.
Fusionnelle, oui. En fait, fusionnelle, je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas, peut-être que vous avez raison. En tout cas, elle les aime tellement qu'elle a beaucoup dormi avec ses enfants en prétextant qu'elle les fait dormir. Mais elle dormait des fois jusqu'au petit matin. Toujours, hein, depuis leur naissance. Et elle me dit même qu'elle m'a aimé à partir du moment qu'elle a eu le premier enfant. Alors moi, je lui dis, ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour conditionnel. Et l'amour, il est inconditionnel. Soit tu m'as aimé, soit tu m'as pas aimé, mais pas parce que je t'ai fait un enfant que tu attends depuis 40 ans.
Elle vous considère pas comme un mari, mais comme un père, quoi.
Exactement, ça a toujours été ça de toute façon. Et au bout d'un moment, je suis passé du statut de père au statut de nounou ou nourrice. Ça veut dire à la maison, je m'occupe des enfants, je les douche, je leur brosse les dents, je leur brosse les cheveux, je les accompagne à l'école, etc. Ça a toujours été ça. À partir du moment qu'ils sont arrivés, je me suis transformé à une nounou et une nourrice. Bref, c'est pas ça en fait le sujet. Le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la situation actuelle, sachant que j'ai accepté au niveau administratif, hein, le divorce. Par contre, au niveau personnel et affectif, j'ai beaucoup de mal, Sabine, j'ai beaucoup de mal et ça me met dans un état mental très 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 fragile. Je m'explique, je suis devenu anxieux et nerveux et je suis devenu pratiquement méchant avec elle. Et ça commence à m'inquiéter. C'est pas normal, je sais. Et je sais que c'est parce que je l'aime et cette situation de divorce me fait souffrir.
Bah, c'est surtout que ça fait plus d'un an que vous vivez des hauts et des bas tout le temps, quoi.
Tout à fait. Mmh. Donc plus les chocs que j'ai eus l'été dernier, parce que j'ai su sur elle des choses qu'elle m'a cachées, qu'elle m'a menti. Et je savais qu'elle était menteuse née, mais je l'aime, c'est comme ça. C'est une personne qui ment comme elle respire. Je suis même rentré en contact mois d'octobre avec une de ses relations qu'elle a eues dans sa vie et il m'a exactement dit qu'elle ment comme elle respire et qu'elle est bipolaire. Et c'est pas un médecin, c'est juste un fonctionnaire d'État. Et il n'y avait pas de diagnostic à l'époque médical. Mais là, 10 ans après, il est tombé le diagnostic. Et elle le nie toujours parce que hier elle avait rendez-vous avec son psychiatre et elle n'a pas été au rendez-vous.
Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'elle est dans
voilà,
le déni complet.
Donc au fait, moi je me suis renseigné tout à l'heure auprès du cabinet et apparemment elle l'a vu une fois depuis un an, le psychiatre. Bref, et elle m'a menti sur ça aussi parce qu'il y a un mois et demi, j'ai abordé le sujet avec elle devant un café, hein, tranquillement, et elle m'a dit qu'elle voit le psychiatre et qu'elle prend un traitement, etc. etc. ça. Donc toujours dans le mensonge, et donc tout ça, bon, à la rigueur, je me suis habitué depuis que je vis avec elle, parce qu'elle m'a menti sur plein de choses. Elle est partie en voyage une fois avec les enfants dans un pays, et elle m'a dit qu'elle partait dans un autre pays. Je l'ai découvert dernièrement aussi, par les passeports des enfants que je ne voyais jamais, parce qu'elle les cachait, et je suis tombé sur les passeports, j'ai trouvé que la destination, elle n'était pas bonne, etc. Bon, bref. Et, donc, le mensonge, je me suis accommodé. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que je suis en colère contre elle, parce qu'elle ne me donne pas de raison valable, à mes yeux, pour qu'on divorce. Sachant que toutes les disputes que nous avons eues dans notre vie, ça concernait le problème financier. Le problème financier que je juge très très déséquilibré. Je m'explique. Mon épouse ne paye rien comme charge fixe. Toutes les factures sont sur mon relevé. Elle participait depuis 4 ans aux courses. Et là, depuis qu'elle m'a dit que bon, voilà, on va divorcer, etc., etc., elle n'achète plus rien. Ça veut dire que maintenant, je gère financièrement la totalité du foyer, sachant qu'on va divorcer. Et du coup, ça m'a mis dans une situation financière très complexe que je suis en train de gérer avec des aides de mon employeur, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est pas ça, parce que les finances, je sortirai du bout du tunnel un jour. Ce qui m'inquiète, c'est que ma nervosité contre elle et ma méchanceté, peut-être que vous allez m'expliquer les raisons, sachant que moi, je crois que j'ai beaucoup d'amour pour elle et j'ai du mal à divorcer. C'est pour ça, au fait, je suis devenu méchant et
forcément.
Je suis désagréable.
Elle est là la raison. Si vous n'aviez aucun sentiment, vous seriez totalement indifférent.
Madame, exactement. Alors, ce que je lui ai posé comme question aujourd'hui, ce n'était pas une question. Je lui ai dit, s'il te plaît, ce soir, hein, je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi que tu ne m'as jamais aimé, ça va me soulager. Parce qu'elle est passée du coq à l'âne depuis 3 mois. Au fait, c'est ce qu'elle m'a imposé à la maison. Elle m'a imposé un statut d'ami, du jour au lendemain. Elle est passée d'un statut de soi-disant marié, sauf que ça fait un an qu'on bat de l'aile, hein. À un statut d'ami. On est devenus des amis pour elle. Comme ça, en quelques nuits, c'est bon, on est des amis, et on parle comme amis, on n'est plus mariés, etc. Et ça m'a surpris, ça m'a rendu fou, quoi. C'est comment on passe d'un statut de soi-disant homme ou femme mariée à un statut d'ami comme ça, et en vivant ensemble. Moi, je lui dis, écoute, ça, c'est pas pour aujourd'hui, l'amitié. On peut pas passer d'un statut. Là, c'est trop rapide. Je lui dis, le jour où on va se séparer, chacun aura son appartement, les émotions vont s'apaiser, on va s'habituer à cette situation. Là, on pourra être amis. On pourra même organiser des repas ou alors des vacances ensemble, même si on est divorcé. Là, une amitié, parce que l'amitié, c'est un autre stade. C'est autre chose, c'est pas. Et pour elle, non, elle est passée du coq à l'âne. Donc ça me confirme qu'elle n'a jamais eu de sentiment pour moi.
Pas forcément. Ça confirme que vous n'êtes pas sur le même rythme, en tout cas.
D'accord.
Alors, vous m'avez dit qu'elle est bipolaire. Donc elle gère quelque chose qui est compliqué, ou elle ne gère pas, en l'occurrence, puisqu'elle est dans le déni.
Elle ne gère rien du tout.
N'êtes pas du tout sur le même mode de fonctionnement.
Sauf que moi, j'ai des éléments qui me prouvent qu'elle ne m'a jamais aimé. Parce que pour moi, aimer, c'est protéger. Et quand je dis protéger, ce n'est pas une protection de la violence physique, ni de la violence, ni que de la violence psychologique ou morale. C'est protéger dans tout ce que ça englobe comme terme. Ça veut dire si je suis dans une maladie, ben, tu me soutiens. Elle m'a jamais soutenue. Et elle est arrivée à me dire un jour que si je tombais malade grave, elle ne pourra pas me porter dans ses bras, quoi. Elle ne pourra pas me soutenir. Si ton conjoint, il est dans une difficulté financière, tu es là. Tu l'aides financièrement. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. et je suis tombé dans une situation financière très difficile à plusieurs reprises. Et quand j'arrivais même pas à faire des courses, sachant qu'elle refusait de les faire, elle me reprochait de ne pas prendre un deuxième travail pour subvenir au foyer parce qu'elle considère que c'est à moi de tout faire. Donc, et plus l'affection, elle n'a jamais été affectueuse envers moi, à part dans les relations conjugales, parce qu'elle était satisfaite à un point où elle n'a jamais eu ça dans sa vie, sachant qu'elle a eu plusieurs partenaires dans sa vie. Parce qu'on était sur la même longueur d'onde, si vous voulez, au niveau conjugal, ça se passait mais vraiment bien. On arrivait à faire des fois, je sais pas si je peux dire, on avait des rapports tous les jours, plusieurs années. Hein. C'était quelque chose de formidable. Donc, à part la sexualité, nous avions, enfin, moi de ma part, j'ai jamais reçu une affection gratuite sans qu'il y ait des actes après. Non, et plus une protection physique. Moi, j'ai eu des agressions par des membres de sa famille, des agressions physiques devant ses yeux. Elle n'a jamais bougé le petit doigt. Hein. Jamais.
Donc vous avez l'impression qu'elle vous a jamais aimé?
J'ai l'impression, et j'en suis pratiquement sûr, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Et ça fait des années que je le sais. Je le sais depuis le début, en fait, depuis la première année. Parce que la première année, je me suis fait agresser. Je me suis fait jeter par son frère à minuit de chez lui. On était en train de manger chez lui et il m'a jeté dehors. Il m'a dit, tu sors. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai organisé un voyage avec mon épouse, sans lui demander la permission, soit disant, à son frère. Alors je comprends pas pourquoi je demande à mon beau-frère l'autorisation pour partir en 6 jours avec ma femme. J'ai pas compris et il a mal pris. Il m'a jeté dehors à minuit. Eh ben, elle n'est pas venue avec moi, elle est restée chez lui. Et je suis reparti tout seul. Donc ce phénomène-là, ça fit-il dans ma tête à l'époque. J'ai parlé de ça à mon thérapeute il y a 6 mois. Quand j'ai parlé de ça, de cet événement, mon thérapeute, elle s'est exprimée pour la première fois dans les thérapies. Elle m'a dit, qu'a fait votre femme quand il vous a jeté dehors? Ben, j'ai dit, elle est restée avec lui, elle n'est pas venue avec moi. Elle m'a dit, continuez. Donc là, j'ai compris que le nœud, au fait, c'était ça. Le nœud de l'affaire, c'était ça. Et à partir de là, moi, j'ai compris que cette femme ne peut pas m'aimer. Parce que quand on aime quelqu'un et il lui arrive un truc comme ça, ben
Mais,
on je
pardon,
sais.
mais c'est paradoxal ce que vous me dites. Ce que vous me disiez tout à l'heure, si j'étais sûre qu'elle ne m'avait jamais aimé, j'accepterais le divorce. Et là, vous n'avez que des preuves qu'elle ne vous a pas aimé.
Oui, mais je
Et pourtant, vous
toujours
n'acceptez pas le
j'ai tout
divorce.
vu. Non, mais quand je dis je l'accepte pas, je l'accepte moral, intellectuellement, je l'accepte, mais affectivement, je peux pas. Je ne maîtrise pas mon affect. Vous voyez ce que je veux dire? Mes sentiments, je les maîtrise pas. Si on était capable de maîtriser, d'agir sur nos sentiments, ben le jour où quelqu'un nous dit on t'aime plus, ben nous on retire les sentiments qu'on a dans le cœur et on les jette à la poubelle. Mais ça, j'y arrive pas. Donc ça va prendre des années, je sais, ça va peut-être des mois, je sais pas, mais ça prendra du temps. Donc moi, je vous parle de la situation actuelle. Moi, je l'aime toujours et j'ai du mal à m'en séparer sentimentalement. Intellectuellement, je l'ai admis et il le faut parce que je sais qu'elle ne m'aime pas. Je sais que financièrement, elle m'a ruiné et si je reste avec elle, elle va continuer à me ruiner parce que je sais qu'elle a énormément d'argent parce qu'elle a toujours fait beaucoup d'économies.
Ah, en plus, oui.
Oui, parce que des fois, je tombe sur des relevés de compte et tout. Je sais ce qui se passe. Elle a plusieurs comptes, elle en a au moins 5. Rendez compte. Et moi, je vis au jour le jour. Ça veut dire le mois, ben j'ai plus rien à la fin du mois, quoi. C'est voilà. Et cette situation, de toute façon, si on continue notre vie ensemble, même dans la joie et le bonheur, je sais qu'elle ne changera pas son attitude de déséquilibre financier. L'équilibre, il équilibre, pas que l'équilibre financier, l'équilibre, il est très important dans un couple. Et mon couple, il est déséquilibré, au fait, sur tous les plans. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan du comportement. Vous savez, moi, je suis la nounou à la maison, je suis la nourrice. Mes enfants, si je les sors pas, ils sortent pas. Si je leur fais pas les activités, font pas la musique non plus, l'hygiène corporelle non plus, les repas, j'en fais un sur deux plus le goûter au quotidien, le ménage, c'est moi. Qu'est-ce que vous
voulez
que
je... La question que je me pose, Samy, c'est comment peut-on aimer une femme qui vous traite comme ça ?
Elle ne me traite pas comme ça. C'est pas de la maltraitance. Au fait, moi, je me suis trouvé dans ce labyrinthe à partir du moment qu'il y a eu le premier enfant. Je vous explique. À partir du moment qu'il y a eu le premier enfant, je me suis rendu compte que mon épouse, elle a beaucoup de mal avec l'enfant. Elle dormait, vous vous rendez compte, en laissant le bébé de 3-4 mois en train d'allaiter avec un risque, dans le lit conjugal, hein, avec un risque de chute par terre. Donc chaque nuit, je surveillais comment elle allaitait et elle s'endormait. Elle s'endormait et elle laissait le sein au bébé. Et le bébé s'endormait et il y avait toujours... Et là, je me suis rendu compte que ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai commencé à m'occuper du premier enfant et je me suis retrouvé au fait la maman de l'enfant sans le faire exprès, hein. Et quand il a commencé à grandir et il y a eu le deuxième et tout, et ben j'ai vu qu'elle était même pas capable de leur brosser les dents, même pas capable de leur enlever les ongles, la douche ça se passe très mal. Il la laisse pas, les enfants, il la laisse pas la doucher, c'est des cris, c'est des... Et si elle les douche, elle les met tous les deux, et elle va faire la cuisine, elle les met dans la baignoire, elle va faire la cuisine, les enfants ils se chamaillent, c'est dangereux de laisser des enfants dans une baignoire, tous les deux, des enfants en bas âge.
Elle est défaillante comme maman, quoi.
Tout à fait, mais ça, elle se rend pas compte parce qu'elle considère qu'à partir du moment qu'elle a beaucoup d'amour pour eux, c'est bon, ça lui suffit. Par contre, au niveau pratique, c'est une catastrophe. Si je vous dis, mes enfants, si je ne m'en occupe pas une journée, ils passent 8 à 10 heures dans les tablettes. Mais je vous jure, quand je dis 8 à 10 heures, je peux vous dire que le petit, il ne voit plus rien. Je l'emmène chez l'ophtalmo, ils font des examens, etc. Ils ne comprennent rien. Mais ils savent que c'est la tablette. Je l'ai envoyé, je l'ai raccompagné il y a 2 semaines chez un pédopsychologue, pardon. Donc, il m'a dit, il faut faire quelque chose. Votre enfant, il commence à avoir mal à la tête. Il ne voit pas. Il est très nerveux quand il lui retire la tablette. Il m'a dit, il faut. Et c'est des disputes continuelles avec mon épouse pour les écrans. Moi, je retire et elle rend. Moi,
comme, je retire comment, et elle... comment est-ce qu'elle envisage la suite si elle se sépare de vous?
Aucune
pour
idée.
Pour les petits.
Je n'ai jamais abordé le sujet avec elle.
Mais c'est important.
Je suis sûr que ça va être une grande catastrophe. D'autant plus que dans ma colère, mes colères, parce que j'en ai eu plusieurs ces derniers mois, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, j'en ai eu plusieurs. Et je crois que c'est des colères pour lui faire mal, hein, parce que j'ai envie qu'elle ait mal aussi, parce que moi je suis très mal. Je vous le dis sincèrement. Hein, je crois que mes colères contre elle, c'est juste pour lui faire mal, parce que je vois que, en fait, elle s'en fiche un petit peu carrément. Peut-être qu'elle cache ça. Parce que c'est quelqu'un qui est secret, au fait. Elle sait cacher les choses. Elle m'en cache toujours. Hein. Vous savez, quand j'ai découvert ce qu'elle a vécu entre 2005 et 2010, je la connaissais pas. Hein. J'ai découvert des choses qu'elle a vécues. Elle m'a dit, tu sais, hein, tu connais peut-être 20 ou 30% hein, de ce que j'ai vécu. Donc elle cache toujours, c'est quelqu'un de très secret, et je crois peut-être qu'elle cache ses sentiments, ou alors son attitude me paraît très bizarre concernant le futur. En tout cas, pour revenir à ma méchanceté, parce que je suis devenu très méchant, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je lui ai dit de partir. Si tu veux divorcer, bah tu pars. Moi, je ne peux pas supporter cette situation. Sachant que c'est mon appartement, c'est une location, hein. Mais il était à mon nom quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée de l'étranger et elle est restée avec moi 4 ans sans travailler. Bon, ça, et une autre anecdote, elle n'a jamais payé sa mutuelle. Sa mutuelle, elle l'a retirée il y a un mois. J'ai tout toujours payer et la mutuelle et toutes les factures. Et à chaque fois, et même les impôts, ces impôts sur le revenu, c'est moi qui les paye. Vous
mais qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous lui dites tu pars?
Elle me dit oui, je suis en train de faire les démarches auprès de mon employeur, ne t'inquiète pas, mais je ne lui fais pas confiance, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance de toute façon. Parce que même sur ça, des fois elle me dit oui, je pars, et des fois elle me dit non, j'ai vu mon avocate, elle m'a conseillé de ne pas partir. Des fois elle me dit oui, d'accord, je fais des démarches, et le lendemain, elle me dit non, c'est ma maison, c'est la maison des enfants, etc. Donc c'est mon appartement, j'ai galéré pour l'avoir par mon employeur, parce que j'étais hébergé chez un copain pendant une année, et je l'ai eu en 2010. Donc elle est arrivée, elle a trouvé l'appartement nickel, meublé, etc. Et là, elle voulait carrément que c'était moi qui pars, mais elle me laissait au fait le temps de trouver quelque chose, même si ça prend une année ou deux, c'est pas grave, on peut cohabiter ensemble, on a mis dans la joie et le bonheur.
Comme si de rien n'était, quoi.
Voilà, elle me dit tu peux rester jusqu'au divorce, hein, y a pas de souci jusqu'à que le divorce ait lieu. Le problème c'est que avec le divorce, moi j'avais pris un rendez-vous le 26 février avec une avocate qui m'a expliqué que comment ça va se passer, etc. Elle m'a donné quelques conseils, sauf que je n'ai pas eu peut-être le courage ou peut-être le temps aussi parce que je manque beaucoup de temps. Parce que au-delà de mon divorce, je suis malade et elle m'a jamais soutenu. Je suis malade depuis le mois d'octobre dernier. Donc, je sais pas si ça a un rapport avec tout ce que s'est passé. Je suis en arrêt maladie et je vois beaucoup de médecins. Ça me prend beaucoup de temps. Tout ça. Et donc, du coup, je n'ai plus revu mon avocate et j'ai pas déposé la totalité du dossier. Et j'ai pas versé la compte. Donc, est-ce que, à votre avis, c'est parce que je ne veux pas divorcer au niveau affectif, ça m'empêche de faire les démarches. Pourtant, j'appelle le cabinet, etc. De temps en temps, je tombe sur la secrétaire parce que l'avocate elle est souvent en tribunal. Mais j'ai pas fait la démarche pour finaliser.
Il y a une partie de vous qui va reculons, quoi.
Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais franchement, j'ai envie de prendre le dossier en main et aller le déposer.
Oui, c'est ce que vous me disiez. Intellectuellement, oui, mais émotionnellement, vous n'êtes pas prêt.
Voilà, donc vous croyez que c'est la partie affective qui m'empêche de faire la démarche.
Qui freine des cas de fer, oui, on dirait bien.
Ouais, parce que mon épouse, elle a fait des démarches et puis sauf que bon, là, pour le moment, j'ai pas reçu de papier de son avocate pour qu'il me signifie la demande. Hein, j'ai rien reçu. Mais elle m'a dit que bon, elle a été au mois de janvier, elle a relancé le divorce parce que la première fois qu'elle a vu l'avocate, c'était au mois de mai de 2020. Et quand elle est revenue après l'hospitalisation. Moi, je lui ai proposé au mois d'octobre de retirer, au fait, d'aller voir son avocate et d'arrêter la procédure. Bon, elle m'a dit oui, ok, d'accord, machin, truc, mais elle n'a rien fait. Donc, elle l'a laissé en stand-by, donc c'était comme une épée de Damoclès. Hein. Et au bout d'un moment, au mois de janvier, elle l'a relancé parce qu'il y a eu le rendez-vous avec les assistantes sociales dont je vous ai parlé, des assistantes sociales. Avec qui nous étions suivis suite à un appel que j'avais fait au 119 quand mon épouse, elle était un petit peu en errance dans le sud chez la famille et mes enfants m'appelaient au secours. Et à partir du moment que mes enfants m'appelaient au secours, j'ai fait le 119 et il y a eu une enquête sociale que mon épouse me reproche toujours. Pourquoi j'ai appelé le 119 pour qu'il nous embête, etc. Donc suite à ces rendez-vous-là, elle me reproche tout ça et de toute façon, à chaque fois, elle me reproche autre chose et je ne comprends pas en fait la raison réelle. Après, je peux comprendre juste une raison qu'elle m'a sortie. Elle me dit de toute façon, on ne pourra plus se faire confiance mutuellement. Voilà. J'ai dit de ma part, je suis en train de travailler sur ça parce que je lis et je regarde beaucoup de professionnels en parler, comment comment regagner la confiance de l'autre, même si vous avez...
Là, je crois qu'on n'en est plus là, Samir.
Pardon ?
Je crois qu'on n'en est plus là.
Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, je vous parle dans les, mois, dans les mois passés, quand, j'essayais de la réconcilier. J'étais en train de travailler sur le pardon, sur comment réconcilier l'autre, comment regagner la confiance de l'autre. Mais là, j'en suis plus. Hein. Moi, maintenant, je m'occupe de ma santé en attendant que j'ai les forces pour aller voir mon avocate et déposer le dossier.
Donc, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de moi ce soir ?
Concrètement, j'attends de vous, je ne sais pas, peut-être que j'attends de vous de me dire... Comment gérer cette situation de vie
C'est pas une demi-heure au téléphone qu'il nous faudrait, Samy. C'est bien plus que ça. Mais vous avez un thérapeute pour ça.
Dites-moi alors.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Si c'est pas j'ai pas compris.
Comment gérer cette situation? C'est pas en discutant avec vous pendant une demi-heure au téléphone que je peux régler tout ça. Vous pensez bien.
D'accord. Ah oui, mais.
Ce qui me semble important de comprendre, c'est que vous n'avez pas accepté. Sur le plan émotionnel de ce divorce. Et c'est là qu'il y a un chemin à faire avec votre thérapeute.
D'accord. Voilà, bah, vous m'avez donné la clé de... Voilà. C'est très bien, oui. Mais, oui. Ça, je comptais le faire, en fait, après la séparation. Je voulais faire un travail pour oublier cet amour, etc.
C'est pas l'oublier, c'est accepter et ranger ça au passé.
Avant de... Oui. Même en étant, mais en étant avec elle dans l'appartement, c'est très compliqué.
Mais ça, j'imagine, oui.
On se croise 40 fois par jour avec le confinement. Bon, ben, merci beaucoup. Je peux finir avec une pointe humoristique.
Rapidement, allez-y.
Bon, j'ai une petite pensée. Comme vous avez dit dans votre introduction qu'on a 60 000 pensées, une petite pensée pour M. Chalençon qui s'est retrouvé en garde à vue aujourd'hui. Moi, je dis un millionnaire qui offre des dîners de prestige à des ministres qui sont peut-être clandestins aussi, hein, parce que c'est des dîners clandestins, je trouve ça scandaleux et c'est de l'humour. Hein.
Je ne commande pas l'actualité sur la libre antenne, Samy. Je vous embrasse, merci de votre appel.
Merci beaucoup à vous.
Et à une autre fois. Au revoir.
À une autre fois, au revoir.